Elle se tourna vers le confectionneur de Disty, assis à sa gauche. « Je ne cesse d'être stupéfaite par l'importance de l'eau sur Arrakis, » dit-elle. « Une importance énorme. Dites-moi, quel est ce plat? C'est délicieux. » « Ce sont des langues de lapin sauvage avec une sauce spéciale. Une très ancienne recette. »«
Il me la faut. » Elle acquiesça.
« J'y veillerai. » Kynes la regarda et dit « Il est fréquent que les nouveaux venus sur Arrakis sous-estiment l'importance de l'eau. Comme vous le comprenez sans doute, vous affrontez la loi du minimum. » Elle décela dans sa voix l'intention de sondage et répondit « La croissance est limitée par l'élément nécessaire qui se trouve être le plus rare. Et naturellement, la condition la moins favorable détermine le taux de croissance. » Il est rare de trouver des membres des grandes maisons qui soient au fait des problèmes de planétologie. L'eau est la condition la moins favorable à la vie sur Arrakis. Et souvenez-vous bien que la croissance elle-même peut introduire des conditions défavorables si on ne la traite pas avec beaucoup de prudence. Il y avait un message caché dans ses paroles, mais Jessica dut admettre qu'elle ne le comprenait pas. « La croissance, » dit-elle. Voulez-vous dire qu'Arrakis peut jouir d'un cycle d'eau organisé afin de permettre l'existence des humains dans des conditions plus favorables? Impossible, lança le mania de l'eau. Jessica se tourna vers lui. Impossible? Impossible sur Arrakis. N'écoutez pas ce rêveur. Toutes les évidences scientifiques sont contre lui. Kynes le regarda et Jessica s'aperçut qu'une fois encore, toutes les autres conversations s'étaient interrompues. Les évidences scientifiques nous cachent un fait très simple, dit Kynes, et c'est le suivant. Nous affrontons ici des problèmes qui sont apparus et perdurent à l'extérieur, où les plantes et les animaux poursuivent normalement leur existence.
Normalement !
S'écria Bute.
Mais rien n'est normal sur Arrakis.
Bien au contraire. On pourrait ici développer certaines harmonies qui s'entretiendraient elles-mêmes. Pour cela, il faut comprendre quelles sont les limitations de cette planète et les pressions qui s'y exercent.
« Cela ne sera jamais, » dit Bute.
Le duc, tout à coup, venait de découvrir à partir de quel point l'attitude de Kynes s'était modifiée. C'était lorsque Jessica avait parlé de conserver les serres pour le bien d'Arrakis.
« Qu'en coûterait-il pour développer ce système autonome, Dr. Kynes ?» demanda-t-il.
Si nous pouvons consacrer 3% des végétaux d'Arrakis à la production de composés carboniques nutritifs, nous aurons lancé le cycle, dit Kynes.
L'eau est le seul problème? Demanda le duc.
Il percevait l'excitation de Kynes et y participait. Celui de l'eau laisse les autres dans l'ombre. Cette planète dispose de beaucoup d'oxygène, mais non des caractéristiques habituelles qui l'accompagnent. Vie végétale développée? Source de gaz carbonique provenant de phénomènes tels que les volcans. De vastes territoires voient se produire ici des échanges chimiques tout à fait inhabituels.
Avez-vous des projets pilotes?
Nous avons consacré beaucoup de temps à obtenir l'effet Tansley. Il s'agit d'expériences au niveau de l'amateur à partir desquelles ma science pourrait maintenant conduire à des applications pratiques.
Il n'y a pas assez d'eau, dit Bute. « Il n'y a pas assez d'eau, c'est tout. »«
Maître Bute, » dit Kynes, « est un expert dans le domaine de l'eau. » Il sourit et revint à son assiette. Le duc eut un geste impératif.
« Non, je veux une réponse. Y a-t-il assez d'eau, Dr. Kynes ?»
Kynes ne leva pas la tête.
Jessica détaillait le jeu des émotions sur son visage.
« Il se cache bien, » songeait-elle. « Mais à présent ?» Elle l'avait enregistré et elle lisait qu'il regrettait ses paroles.
« Y a-t-il assez d'eau ? » répéta le duc.
« C'est possible, » dit enfin Kynes. « Il feint l'incertitude, » pensa Jessica. Avec son sens de vérité plus perçant, Paul lut la motivation sous-jacente et il lui fallut en appeler à toutes les ressources de sa formation pour dissimuler l'excitation qu'il ressentait. Il y a assez d'eau, mais il ne veut pas que cela soit su.
Notre planétologiste fait bien d'autres rêves très intéressants, dit Bute. Avec les Fremen, il rêve de prophétie et de messie. »
Des rires s'élevèrent et Jessica fut surprise. Le contrebandier avait ri, ainsi que la fille du confectionneur de distilles et Duncan Idaho, et la femme à la mystérieuse escorte.
L'attention est bien curieusement répartie ici ce soir, se dit-elle. Il se passe trop de choses que j'ignore. Il va me falloir créer de nouvelles sources d'informations.
Le regard du duc alla de Kynes à Bute, puis à Jessica. Il se sentait bizarrement isolé, comme si quelque chose de vital venait de lui échapper.
Possible, murmura-t-il. Peut-être devrions-nous en parler une autre fois, monseigneur, dit vivement Kynes.
Il y a tant de...
Il s'interrompit comme un garde en uniforme atréide surgissait par la porte de service, courait jusqu'au duc et se penchait pour murmurer à son oreille. Jessica identifia l'insigne des hommes de Hawat et réprima son trouble. Elle s'adressa à la compagne du confectionneur de distilles, une femme minuscule au visage de poupée, à la chevelure brune.
« Ma chère, vous avez à peine touché votre assiette. Dois-je vous commander quelque chose d'autre ?»
La femme jeta un regard à son compagnon avant de répondre
« Je n'ai pas très faim. »
Brusquement, le duc se leva aux côtés du soldat et il déclara sur un ton de commandement « Que chacun reste assis. Pardonnez-moi, mais un problème se pose qui requiert mon intervention personnelle. »
Il fit un pas en arrière.
« Paul, veux-tu me remplacer en tant qu'hôte, je te prie ?»
Paul se leva.
Il était sur le point de demander à son père pourquoi il devait s'absenter, et il savait qu'il devait agir selon la tradition. Il alla prendre place sur le siège de son père. Le duc, alors, se tourna vers l'alcôve où veillait Alec.
« Gurney, prends la place de Paul à la table, je te prie. Nous devons rester en nombre pair. Lorsque le repas aura pris fin, il se peut que je te demande de conduire Paul au poste de commandement. Tiens-toi prêt. »
Alec sortit de l'alcôve. Il était en tenue et sa laideur paraissait déplacée dans tout ce raffinement et ses chatoiements. Il posa sa balisette contre le mur et alla s'installer dans le siège laissé vacant par Paul.
Inutile de s'inquiéter, reprit le duc.
Mais il me faut demander à chacun de ne pas quitter l'abri de notre demeure jusqu'à nouvel ordre. Vous serez parfaitement en sécurité tant que vous serez ici. Ce petit contretemps s'arrangera très vite.
Paul saisit les mots code. Abri, ordre, sécurité, vite.
Le problème concernait la sécurité et non la violence. Il vit que sa mère avait également compris le message. Tous deux se détendirent. Le duc inclina brièvement le menton et sortit par la porte de service, suivi du soldat.
« Reprenons ce dîner, je vous prie, » dit Paul. « Je crois que le docteur Kynes parlait de l'eau. »
« Pourrions-nous y revenir une autre fois ?» dit le planétologiste.
« Quand il vous plaira, » répondit Paul.
Et Jessica, avec fierté, remarqua la dignité de l'attitude de son fils, la maturité de son assurance. Le banquier prit son flacon d'eau et l'agita à l'adresse de Bute.
« Ici, nul ne saurait surpasser Maître Bute pour ce qui est des phrases fleuries. On pourrait presque penser qu'il aspire au statut des grandes maisons. Allons, Maître Bute, portez-nous donc un toast. Peut-être tenez-vous en réserve quelques phrases pleines de sagesse pour ce garçon que l'on doit traiter comme un homme. »
Sous la table, la main droite de Jessica se referma en un poing. Elle surprit le signal de Alec à Idaho et vit les soldats qui, au long des murs, se mettaient en position de défense. Bute adressa un regard venimeux au banquier. Paul regarda Alec. Il venait à son tour de s'apercevoir du mouvement des gardes. Puis ses yeux se portèrent à nouveau sur le banquier. Celui-ci, finalement, abaissa son flacon d'eau.
« Une fois, sur Caladan, dit Paul, j'ai vu le cadavre d'un pêcheur noyé.
Il...
noyé ? »
s'écria la fille du confectionneur de distilles.
Paul hésita.
« Oui, immergé dans l'eau jusqu'à ce que mort s'en suive. Noyé. Quelle intéressante façon de mourir !»
Il eut un sourire dur, puis regarda de nouveau le banquier.
«
Ce qui était intéressant chez cet homme, c'était les blessures qu'il portait aux épaules. Des blessures faites par les crampons des bottes d'un autre pêcheur. La victime avait fait partie d'un groupe qui se trouvait à bord d'un bateau, un appareil pour naviguer sur l'eau. Et ce bateau avait fait naufrage. Il s'était enfoncé dans l'eau. Un autre pêcheur qui avait aidé à ramener le corps dit qu'il avait déjà rencontré ce genre de blessure plusieurs fois déjà. Elle révélait qu'un autre passager avait essayé, au moment du naufrage, de grimper sur les épaules de son malheureux compagnon dans l'espoir d'atteindre ainsi la surface pour respirer l'air.
« Et en quoi était-il intéressant ?» demanda le banquier.
Mon père a fait alors une remarque. Il a dit que l'on pouvait très bien comprendre l'homme qui grimpe sur les épaules d'un autre au moment où il se noie. Par contre, cela devient incompréhensible s'il le fait, disons, dans un salon.
Il hésita, afin de préparer le banquier à ce qui allait suivre.
Ou, ajouterai-je, à la table du dîner.
Le silence revint soudain dans la salle. Téméraire, se dit Jessica. Ce banquier pourrait bien avoir un rang suffisant pour défier mon fils. Elle vit que Duncan Idaho était prêt à entrer en action. Les soldats étaient également en alerte et Gurney Halleck avait les yeux fixés sur les hommes qui lui faisaient face.
Le contrebandier, Tueck, éclata de rire, la tête rejetée en arrière, dans un complet abandon. Des sourires crispés apparurent autour de la table. Bute sourit à son tour. Le banquier, lui, avait rejeté son siège en arrière et il fixait sur Paul un regard flamboyant de colère.
« On affronte un Atréide à ses dépens, » dit Kynes.
« Est-ce la coutume des Atréides que d'insulter leurs invités ?» demanda le banquier.
Avant que Paul puisse rétorquer, Jessica se pencha et dit « Monsieur !» Et elle songeait « Il faut que nous connaissions le jeu que joue cette créature des Harkonnen. Est-il ici pour défier Paul ? A-t-il une aide ?»« Mon fils évoque une image et vous y voyez votre portrait ?» reprit-elle. « Quelle fascinante révélation !»
Sa main glissait vers sa jambe, là où était dissimulé le Christ dans son étui.
Le banquier la foudroya à son tour du regard. Paul s'était légèrement écarté de la table, se préparant à l'action. Il s'était arrêté au mot « image », qui signifiait « prépare-toi à la violence ». Kynes posa sur Jessica un regard évaluateur, tandis que, d'une main, il faisait un signe subtil à l'intention de Tueck.
Le contrebandier se dressa et leva son flacon. « Je porte un toast !» lança-t-il. « Au jeune Paul Atréide, qui est encore un jeune garçon de par son apparence, mais un homme dans ses actes. »
« Pourquoi interviennent-ils donc ?» se demanda Jessica.
À présent, le banquier regardait Kynes, et Jessica vit que la terreur, pour la seconde fois, envahissait ses traits. Autour de la table, les invités commencèrent à réagir.
Lorsque Kynes ordonne, les gens obéissent, se dit Jessica.
Il vient de nous dire qu'il se rangeait aux côtés de Paul. Quel est le secret de son pouvoir?
Ce n'est certainement pas parce qu'il est l'arbitre du changement. Cela n'est que temporaire. Et ce n'est pas non plus parce qu'il sert l'empereur.
Sa main s'éloigna de l'étui du Chris. Elle prit son flacon, le leva vers Kynes, qui répondit.
Seuls, Paul et le banquier,
Sou-Sou, quel surnom stupide, pensait Jessica,
demeurèrent les mains vides. L'attention du banquier restait fixée sur Kynes. Quant à Paul, il regardait son assiette. Et il pensait,
j'avais les choses en main, pourquoi sont-ils intervenus?
Il regarda subrepticement ses voisins mâles.
Prépare-toi à la violence?
Mais venant de qui?
Certainement pas de ce banquier. Halleck parla à la cantonade.
Dans notre société, les individus ne devraient pas aussi vite se considérer comme offensés.
Cela équivaut fréquemment à un suicide.
Son regard se posa sur la fille du confectionneur de distilles.
Ne le pensez-vous pas, mademoiselle?
Ah oui. Oui, bien sûr, dit-elle. Il y a trop de violence. Cela me rend malade. Et la plupart du temps, il n'y a aucune offense. Pourtant, des gens meurent. Cela n'a pas de sens.
Certainement, dit Alec. Jessica découvrit à quel point l'attitude de la fille avait été proche de la perfection. Et elle songea, cette petite femelle à la tête vide n'est pas du tout une petite femelle à la tête vide. Elle décela alors la menace et comprit que Alec, lui aussi, l'avait décelée. Ils avaient tenté de séduire Paul par le sexe. Elle se détendit. Sans doute son fils avait-il été le premier à s'en apercevoir. Cette manœuvre n'avait pas échappé aux perceptions entraînées de Paul.
« Ne serait-ce pas l'occasion d'une nouvelle excuse ?» demanda Kynes au banquier.
Ce dernier se tourna vers Jessica avec un sourire douloureux.
« Madame, je crains d'avoir sous-estimé vos vins. Ceux que vous nous avez fait servir sont puissants et je n'y suis point accoutumé. »
Il y avait du venin dans ses paroles. Jessica répondit d'une voix douce.
« Lorsque des étrangers se rencontrent, il convient de faire une certaine place aux différences de formation et de coutumes. »
« Merci, madame. »
La voisine du confectionneur de distilles se pencha alors vers Jessica et demanda
« Le duc nous a enjoint de demeurer ici. J'espère que cela ne signifie pas de nouveaux combats. »
Ainsi, c'est à ce point qu'elle devait amener la conversation, se dit Jessica.
« Je pense que tout ceci sera sans importance, dit-elle. Mais en ce moment, il y a tant de détails qui requièrent l'attention du duc. Aussi longtemps que l'inimitié persistera entre les Atréides et les Harkonnen, nous ne saurions être trop prudents. Le duc a fait vœu de rétribution. Et il est certain qu'il n'entend pas laisser en vie un seul agent des Harkonnen sur Arrakis. »
Son regard se posa sur le banquier.
Bien entendu, les conventions lui donnent raison sur ce point.
Son regard revint sur Kynes.
N'est-il point vrai, docteur Kynes?
Très certainement.
Discrètement, le confectionneur de distilles attira son voisin en arrière. Jessica dit en le regardant,
« Je pense que je vais encore manger. Peut-être de cet oiseau que l'on nous a servi précédemment ?»
Elle fit signe à un serviteur et se tourna vers le banquier.
« Et vous, monsieur, vous parliez des oiseaux et de leurs mœurs. Il existe tant de choses passionnantes sur Arrakis. Dites-moi, où trouve-t-on l'épice? Les chasseurs vont-ils loin dans le désert ?»«
Oh, non, madame. On ne sait que peu de choses sur le désert profond. Et presque rien des régions méridionales. »«
Si l'on en croit un conte, dit Kynes, on devrait trouver une grande charge mère d'épices dans ces régions. » Mais je pense qu'il ne s'agit là que d'une invention pour les besoins d'une chanson. Parfois, des chasseurs d'épices audacieux pénètrent dans la ceinture centrale, mais c'est extrêmement dangereux. La navigation y est incertaine, les tempêtes fréquentes. Les accidents se multiplient dans des proportions dramatiques à mesure que vous vous éloignez des bases du bouclier. On a découvert qu'il n'était guère profitable de se risquer loin dans le sud. Bien sûr, si nous disposions d'un satellite météo, Biot leva les yeux et dit, la bouche pleine,
« On dit que les Fremen vont jusque-là, qu'ils se risquent n'importe où et qu'ils ont trouvé des trempes et des puits gorgeurs même dans le sud. »«
Des trempes et des puits gorgeurs ?» demanda Jessica.
« Ce ne sont que des rumeurs qui courent, madame, » intervint Kynes.
« Ce sont des choses que l'on connaît sur les autres mondes, pas sur Arrakis. » Une trempe est un endroit où l'eau filtre jusqu'à la surface, ou du moins assez près de la surface pour que l'on décèle sa présence à certains signes. Un puits gorgeur est une forme de trempe qui permet de se désaltérer à l'aide d'un chalumeau engagé dans le sable. Du moins à ce que l'on raconte.
Ces mots sont trompeurs, songea Jessica.
Pourquoi ment-il ? Se demanda Paul. Comme c'est intéressant ! Fit Jessica.
À ce que l'on raconte, quel curieux maniérisme dans leur façon de s'exprimer. S'ils savaient à quel point cela révèle l'importance qu'ils accordent aux superstitions.
Vous auriez un dicton, fit Paul. Le vernis vient des cités, la sagesse du désert.
Il y a bien des dictons sur Arrakis, dit Kynes.
Avant que Jessica ait pu formuler une nouvelle question, un serviteur lui présenta un billet. Elle le déplia reconnut l'écriture du duc et ses signes codés. Elle releva la tête et dit « Vous serez tous heureux d'apprendre que le duc nous rassure. » Le problème qui justifiait sa présence a reçu une solution. On a retrouvé le portant disparu. Un agent Harkonnen qui s'était glissé dans l'équipage avait réussi à neutraliser ses compagnons et à conduire l'appareil jusqu'à une base de contrebande, avec l'espoir de le vendre. L'homme et la machine nous ont été restitués.
Elle inclina la tête à l'adresse de Tuek qui lui répondit. Puis elle replia le billet et le glissa dans sa manche.
Je suis satisfait de voir que cela ne s'est pas transformé en bataille ouverte, dit le banquier. Le peuple espère à un tel point que les Atréides vont lui amener la paix et la prospérité.
Surtout la prospérité, dit Bute.
Pouvons-nous goûter au dessert à présent? Demanda Jessica. J'ai commandé à notre chef une douceur de Caladan. Du riz sauce dolsa.
Le nom seul est déjà délicieux, s'exclama le confectionneur de distilles.
Serait-il possible d'avoir la recette?
Toutes les recettes que vous désirerez, dit Jessica, tout en enregistrant l'homme pour Hawat, plus tard. Ce fabricant de distilles était un petit arriviste peureux qu'il serait facile d'acheter.
Autour d'elle, les conversations avaient repris. Quelle splendide étoffe! Il faut faire un ensemble pour aller avec le bijou. Nous devrions essayer d'augmenter la production pendant le prochain...
Jessica abaissa le regard sur son assiette. Elle pensait à la partie codée du message de Leto. Les Harkonnen ont tenté d'introduire une cargaison de laser. Nous les avons capturés, mais ceci peut signifier qu'ils ont réussi avec d'autres cargaisons. Et certainement qu'ils n'accordent pas une grande importance au bouclier. Prenez les précautions appropriées. Les lasers. Leurs rayons pouvaient percer n'importe quel matériau connu non pourvu d'un bouclier. Le fait que le contact d'un rayon laser avec un bouclier provoquait l'explosion simultanée de l'un et de l'autre ne semblait pas inquiéter les Harkonnen. Pourquoi? L'explosion du bouclier et du laser libérait une énergie dangereusement variable qui pouvait dépasser celle de tous les atomiques ou ne tuer que le tireur et son objectif. Elle était troublée par toutes les inconnues qu'elle sentait là.
« Je n'ai jamais douté que nous retrouverions ce portant, » déclara Paul. « Lorsque mon père s'attaque à un problème, il le résout. Les Harkonnen commencent seulement à le découvrir. »«
Il parade, » songea Jessica.
« Il ne devrait pas. »
Quelqu'un qui va se terrer dans le plus lointain sous-sol durant la nuit pour échapper au laser n'a pas le droit de parader. »